Nouvelle émission Perche 3000 sur les ondes de Radio Galère. C'est la première que je fais. Et donc bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, le principe de l'émission, ça va être de l'improvisation. C'est-à-dire qu'on prévoit pas trop en fait en amont ce qui va se passer dans cette émission. Enfin si, ce qui va se passer, oui. Mais en tout cas, l'idée c'est de pas avoir trop de programmes et de prendre les choses comme elles viennent. Alors il va y avoir peut-être des approximations, mais en tout cas il va y avoir surtout des improvisations. Et si l'émission de ce soir vous plaît pas, et ben peut-être que la prochaine vous plaira, parce que ce sera probablement complètement différent, et la suivante aussi, et la suivante encore aussi. Voilà, donc comme vous l'avez entendu il y a quelques secondes, on dédie cette émission à Théo qui nous a quittés, et en fait on va la dédier aussi à plein d'autres gens, à toutes les Algériennes et à tous les Algériens. Pourquoi ? Parce que y a des morts qu'on pleure et il y a aussi des morts qu'on célèbre. Je sais pas pour vous, mais moi, il y a quelques jours, j'ai fait péter le champagne avec mes potes. On a bien célébré la mort de la grosse ordure de Le Pen qui nous a quittés lui aussi. On espère qu'il pourrira comme une grosse merde. Parce qu'en fait, tous ces commentateurs et commentatrices sur les chaînes d'info de droite qui s'offusquent de nous voir célébrer cette mort en disant que les morts on n'y touche pas, et ben non. Les morts comme Le Pen, on continue à leur chier dessus comme on l'a fait pendant tout leur vivant. Et on n'arrêtera pas de répéter que c'était un tortionnaire, que c'était un raciste, que c'était juste un haineux et qu'il a attisé la haine, qu'il a fait que attiser la haine toute sa vie, qu'on a souhaité sa mort longtemps et qu'elle est enfin arrivée et on s'en réjouit, oui, on s'en réjouit. Et même si ça peut paraître bizarre, et moi j'avoue que je me réjouis pas beaucoup et pas souvent des morts, et ben celle-ci, franchement, elle m'a fait quand même bien bien plaisir. Alors cette émission, elle est dédiée à toutes les Algériennes et tous les Algériens. Et aujourd'hui, on va entendre des témoignages de personnes qui ont été ou dont la famille a été torturée par Le Pen en personne. C'est pas une fiction, c'est pas des on-dit. C'est ce gars-là, il a fait de la merde dès son plus jeune âge. Il a continué à en faire, il s'en est pas caché. C'est pas juste quelqu'un qui était polémique, c'est pas juste quelqu'un qui était provocateur, c'est quelqu'un qui avait une idéologie et que cette idéologie elle a grandi et d'autres s'en sont inspirés et la mort de cet homme là elle nous fait penser à toutes les morts des personnes sur lesquelles il a craché, toutes les personnes qui sont mortes en mer parce que les frontières sont fermées, toutes les personnes qui sont mortes des tortures lors de la guerre d'Algérie et celles qui les ont subies sans en mourir. Le nombre de morts et de haine que cet homme a provoqué dépasse sans commune mesure la mort de ce seul homme. Et nous, on célèbre aujourd'hui, célébrons ensemble, chers amis, mes frères, mes sœurs, la mort de Jean-Marie Le Pen. Pour célébrer ça, enfin on va pas vraiment célébrer, hein. Enfin si vous voulez péter le champagne chez vous ou juste trinquer à la mort de ce bâtard, n'hésitez pas. Mais en tout cas, on va écouter des témoignages et ça va être le programme de cette prochaine demi-heure. Et donc on se retrouve peut-être un peu après, je sais pas, on va improviser quelque chose peut-être sur la fin de cette émission ou pas. Et je donnerai un peu les rêves de tous les témoignages et de tous les sons qu'on va entendre. Et ben bonne écoute.
Le Pen, je l'ai connu un soir de février 1957. C'est lui-même qui est venu m'arrêter chez moi. Et On nous a amenés dans la villa dont parlait Khalifa. Et là, on a vu un grand nombre de militants, d'Algériens qui étaient arrêtés, de tous âges, hein, des jeunes, des vieux, il y avait même des femmes. Et il y a eu le lieutenant Le Pen, moi je l'appelle toujours lieutenant Le Pen parce que pour moi je l'ai toujours devant les yeux en tenue de para ou en... Et ça je ne l'oublierai jamais. Je l'ai vu, il m'a torturé à moi personnellement, à l'eau, à l'électricité, et je l'ai vu même liquider des gens qui étaient torturés. Il y avait, comme a rappelé le frère Khalifa, un militant, Hadji Ali Mouloud Ounes, qui avait été torturé à mort. Et je crois qu'il avait tenté à l'époque de s'évader. Il a frappé un para, il s'est sauvé. Et au moment de sauter les fils barbelés qui entouraient la villa, il a été abattu par un para allemand. D'ailleurs, qui a regretté d'ailleurs d'avoir tiré, parce que moi-même je le voyais d'une terrasse de la villa, où il essayait d'arrêter le Hadji Ali qui se sauvait. Bon, il a m'agressé, il a tiré dessus, il l'a battu, et on m'a descendu à moi, et puis devant tout le monde, devant les gens qui étaient arrêtés, il y avait beaucoup de gens qui étaient sous les arbres, qui étaient emprisonnés, attachés, il l'a liquidé lui-même d'une balle derrière la tête.
Quand vous
dites « il », s'agit toujours bien du lieutenant Le Pen. Il y a encore des témoins sur l'activité pendant la période où Le Pen s'est engagé, le lieutenant Le Pen s'est engagé dans l'armée, dans les paras. Parce qu'à l'époque, je crois qu'il était député de l'Assemblée nationale française, et je crois que personne ne pourra oublier, tous ceux qui sont passés entre ses mains n'oublieront jamais cette période, cette époque.
Parce que Le Pen, lui, dit qu'il est peut-être arrivé de secouer un peu les gens, de leur taper dessus à tout point comme ça, mais la torture, jamais.
Oui, mais. Non, mais.
Qu'est-ce que c'était, la torture?
La torture, c'était toutes les tortures. C'est-à-dire, il se servait d'électricité, il se servait de baignoire, il se servait de bidon d'eau, il se servait de couteau, il se servait de tout. Enfin, personnellement, c'était l'eau et l'électricité.
Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts sous la torture des mains de Le Pen?
Enfin, personnellement, ce que j'ai vu, moi, il y en a eu bien 4 que j'ai vu personnellement. Hein. Maintenant, il y en a d'autres, bien sûr.
Ici se trouve M. Jacques Chevalier, maire d'Alger et ex-ministre de la Défense. Et ici, à côté, Hadj Boukhalfa, qui travaillait à l'époque à la mairie d'Alger et qui se trouve en ce moment à côté de moi. Monsieur Hadj Boukhalfa, quelle était exactement votre fonction à la mairie d'Alger?
J'étais comme maître d'hôtel à l'appartement de réception de monsieur le maire.
Qui se trouvait dans la mairie?
Qui se trouvait à la mairie.
Et vous habitiez où?
J'habite tout au-dessus de l'appartement. Et tout en coup, j'entends les carreaux de la fenêtre qui tombent. Ils sont frappés sur la fenêtre. Moi, je regardais, j'ai trouvé ici, par là, devant moi, avec des mitraillettes. Ils ont forcé la fenêtre, c'est un grand carreau, et puis ils ont sauté sur moi. Le premier coup, ils m'ont donné un coup sur la tête, là. Voilà, il y a la marque jusqu'à présent. Ils m'ont donné un coup sur la tête, ça commence le sang à couler.
Oui, c'est pas grave. On continue. Pardon, voici.
Alors, ma femme, elle a vu du sang, et les enfants, ils ont fait du sang qui coule comme ça, ils étaient affolés. Et ils ont sauté sur moi, ils m'ont mis des menottes, ils m'ont abandonné la figure.
Ils vous ont mis un bandeau sur les yeux?
C'est ça.
Oui.
Et les menottes, comme ça, les mains, ils m'ont fait descendre jusqu'à l'asthme, jusqu'à la sortie de la mer d'en bas.
Oui, oui.
À la cave, ça veut dire, mm-hmm. C'était...
Le sous-sol.
Sous-sol. Alors là, ils m'ont mis là-bas J'ai trouvé tout par terre. Il y a des types qui se préparaient à faire la brotte. Comment on appelle ça? Comment vas-tu, homme?
Ah bon?
C'est ça. Alors, ils m'ont posé par terre, comme ça, attaché, et les yeux abandonnés. Et il y en a un, il me dit, Willy, qu'est-ce qu'il fait, chevalier? Qu'est-ce qu'il fait, monsieur chevalier? Ton maire, vous êtes les mecs de la mairie. Il faut que tu nous dis qu'est-ce qu'il parle, avec qui il parle, qui c'est qui vient, s'il y a des FLM qui viennent. J'ai dit, mais monsieur, c'est le maire de tout le monde, moi je ne veux pas faire attention à ce qu'il parle avec les gens. Moi, finalement, je le sers à boire et je sors. Et ils m'ont placé par terre. Il y a un type qui l'a pris en tuyau d'eau. Il y a un type qui... des choses d'électricité, un qui me rose avec de l'eau, il me dit, il faut que tu parles.
Où est-ce qu'ils vous ont mis l'électricité?
C'est dans mon... Je m'excuse. Et puis...
Dans le sexe.
Dans le sexe, et puis dans les oreilles. Tu as posté des cris, disant, il y a un de type, un de ceux qui sont autour de moi, il a pris ses ongles des yeux de... Les mains comme ça, les grandes ongles, ils commencent à me les forcer dans les yeux. Et moi, j'ai crié. Moi, j'ai crié assez fort, je croyais que c'est la mort. Alors, j'ai dit, « Shahadu inna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. » Alors, ils m'ont cassé les doigts comme ça. Ils m'ont jeté encore du chiffon dans ma bouche. Je croyais que c'est fini, c'est la mort.
Oui, mais maintenant, est-ce que vous pouvez quand même reconnaître quelque chose sur une photo?
Je ne crois pas.
Non.
Je ne crois pas. Parce que ma vue, elle a baissé complètement. Ouais.
Donc, monsieur Hatch Boukalfa ne pouvait pas reconnaître les gens qui l'ont torturé. Mais le maire était au courant, le maire qui avait fait faire les recherches. Et je vais vous donner lecture de la lettre certificat qui a été donnée ensuite par Monsieur Chevalier, qui, je le précise, était maire d'Alger, ex-ministre de la Défense, et qui cite le nom de la personne qui a arrêté Monsieur Boukalfa dans la mairie et qui l'a torturé dans la mairie. Je, sous-signé Jacques Chevalier, ancien maire d'Alger, ancien ministre, certifie les faits suivants. En février 1957, Monsieur Boukalfa Hadj, agent municipal, a été arrêté et enlevé dans la nuit par un commando de parachutistes. Ce commando, sous les ordres du lieutenant Le Pen, s'était introduit sans droit dans les locaux municipaux de réception. En saisissant M. Boukalfa Hadj, Le Pen entendait obtenir de lui des renseignements sur les personnes que je recevais ou hébergeais dans les appartements du maire. M. Boukalfa fut soumis à la torture, électricité, etc. M. Boukalfa Hadj a toujours été un agent municipal irréprochable et pour moi un collaborateur particulièrement dévoué dans les moments difficiles et parfois tragiques que j'ai vécu comme maire d'Alger. En foi de quoi je lui délivre la présente attestation, 1966, signé Jacques Chevalier, ancien maire d'Alger.
Le jour où on reçoit un rapport de commissaire de police, vous désignant M. Le Pen, prononçons son nom carrément, Monsieur Le Pen, lieutenant de parachutiste, va asseoir dans son hôtel et exige du portier, du chef gardien de l'hôtel, à boire. Le gars lui dit, il n'a pas les clés, Monsieur Le Pen, qui ne faisait pas une opération de police recherche de bombes, là. C'est pas, tout à fait différent. Monsieur Le Pen n'est pas le combattant glorieux. Quel combat il fait, j'en sais rien. En tout cas, celui-là n'est pas honnête. Monsieur Le Pen torture et casse la gueule au gardien d'hôtel. Parce qu'il ne veut pas lui servir à boire à 2h du matin. On a un rapport de police, j'ai donné ça autrefois. C'est connu, ça.
Mon fils a sorti sur une chaise. Il y a un para qui venait derrière moi. Il m'a mis une sorte de boucle d'oreille, de pinces. Des pinces. Une de chaque côté. Alors il me repose la question, est-ce que tu veux parler ou non? J'ai dit, je vous jure que je ne sais absolument rien. Il ne m'a pas laissé terminer la phrase que ça a été une décharge, alors vraiment une décharge d'électricité. J'ai fait un bond, je ne peux pas vous dire de combien, mais vraiment, il était bien bon. J'ai sauté un bond. J'ai commencé à crier parce que ça faisait mal. Hein. Et il s'est arrêté. Ça, c'était un aperçu de leur. Il a dit, tu parles ou tu ne parles pas? Ils disent la même chose toujours. Mon lieutenant, je ne sais absolument rien. Et ça reprend. L'électricité. Je suis tombé par terre. Ça me faisait tellement mal que je cherchais, je ne sais pas, quelque chose à quoi m'accrocher ou quelqu'un. Il y avait justement un parachutiste juste à côté de moi. Je l'ai agrippé par la main. Alors il fallait l'entendre crier. Hein. Je vous jure qu'il a crié plus que moi.
Parce qu'il a reçu l'électricité.
Parce qu'il a reçu l'électricité. Il a crié plus que moi. Ah, finalement, ils se sont arrêtés. Ils sont arrêtés. Le lieutenant, il se lève, parce qu'il était en face de moi. Il y avait une table. Il se lève. Il vient juste à ma hauteur. Il me dit, toi, tu n'es pas gentil avec nous. Tu ne veux pas nous dire ce que tu sais. Et ça va tourner mal pour toi. Alors, il me fait lever, je me mets debout. Je ne sais pas pour quelle raison, il dit, tu vois, tu es maigre. Regarde-moi, je fais bien dans les 90 kilos. Je suis capable de te broyer. Et il s'est mis à me boxer.
C'était le lieutenant.
C'était le lieutenant.
Est-ce que vous le reconnaissez sur cette photo?
Oh oui. Oui, c'était bien lui. Hein.
C'est lequel?
C'est celui-là. Là.
Vous montrez la photo à la caméra, mettez-la devant votre visage. Vous le montez devant votre visage.
Celui-là. C'est le...
Et vous avez su comment il s'appelait ensuite?
Non, je ne le savais toujours pas. Je ne le savais toujours pas. C'est après que j'ai appris son nom. C'est à la suite de mon refus de reconnaître les faits. Alors là, il s'était mis en colère. Il m'a dit, écoute, nous avons essayé d'être gentils avec toi, et toi, tu ne veux pas l'être avec nous. Ben, je vais te dire une chose. Tu parleras. Je te jure que tu vas parler, sinon je ne m'appelle pas Le Pen. Et ça a été comme ça. Torture, électricité, bastonnade avec bâton, coup de poing, coup de pied, ça n'a rien donné.
Et toujours en présence du même lieutenant?
Oui, oui. Et ils étaient commandés par ce lieutenant. Les autres, c'était des simples soldats, des parachutistes. Maintenant, peut-être qu'ils avaient des grades de caporal ou quelque chose, mais c'est inférieur à un lieutenant. Ils étaient, pour ainsi dire, le chef de groupe. Et alors, ils s'arrêtent. Ils me mettent dans une pièce à côté de la salle de torture. Là, j'entendais tout ce qui se passait dans notre pièce. Les cris des hommes, les cris des femmes, tous ceux qui passaient par là-bas, c'est-à-dire qui passaient aux tortures, je les entendais crier. Et ça m'a vraiment... ça me faiblissait moralement. J'ai essayé de tenir quand il s'agit de la torture physique, mais quand c'est arrivé à la fois la torture morale, il y avait la fatigue, il y avait le sommeil, il y avait... Et en plus de ça, la torture physique, je n'en pouvais plus. Le lendemain, ça a continué comme ça, l'électricité, eau, enfin, toute la gamme de torture. J'ai flanché. Ils m'ont mis en bas dans une pièce, dans une chambre, une toute petite chambre, elle faisait peut-être 2 sur 2. Et à l'intérieur, il y avait une chaudière. Dès que le parent a refermé la porte, j'ai remarqué une bouteille juste sur la fenêtre, à côté de la chaudière. Tout de suite, l'idée de me suicider m'est venue à la tête. Je n'en pouvais plus. C'était premièrement parce que je n'en pouvais plus. J'étais vraiment à plat, physiquement et moralement. Et deuxièmement, la peur d'être, si au cas où je parlerai de mes camarades, de devenir un traître aux yeux de tous mes amis, ma famille sera humiliée. Alors, la seule solution, c'était de prendre la bouteille. Sans réfléchir, j'ai pris la bouteille, paf, j'ai cassé contre la chaudière et j'ai commencé à entailler la gorge.
Ce sont les cicatrices qu'on voit.
Oui, voilà.
Ouais.
Oui, j'ai une bonne cicatrice, là. Une trachéite, ici.
Ouais.
C'est de là que j'ai respiré.
Mmh.
Là, vraiment, le professeur Gouanard a fait un beau travail. Alors, comme je vous disais, en entendant le bruit de la bouteille cassée, les parents sont accourus. Ils sont arrivés en courant et ils m'ont trouvé en train de... J'étais en train de me taper avec le tisson de verre à la gorge. Ils ont essayé de m'enlever la bouteille, enfin le morceau de verre qui me restait dans les mains. C'était le goulot qui était pointu. J'ai menacé le parachute. Je crois que j'avais blessé le parachute parce que je l'ai menacé de morceaux de verre. Et puis je suis tombé. Mais ils m'ont transporté à l'hôpital avec une vitesse formidable. Ce jour-là, lors de ma sortie de prison, on m'a ramené à la Villa des Roses. Tout le monde là, il était entouré. J'ai trouvé qu'il y avait plein d'officiers. Ce n'est plus comme avant. Il y avait beaucoup d'officiers. Il y avait des capitaines, des lieutenants, des commandants, tous habillés en parachutistes. Ce jour-là, c'était le capitaine Martin qui m'a parlé.
Mais Le Pen était là quand même.
Oui, il était présent. Il était présent à tout. À tous les interrogatoires que j'ai subis, Le Pen était présent.
Et là, on a recommencé à vous interroger. Hein.
Le capitaine Martin m'a posé la question. Il m'a dit, alors, ça va mieux? J'ai dit un peu, mon capitaine. Il m'a dit, maintenant, qu'est-ce qu'il va? Tu nous as eu la première fois. Maintenant, tu vas nous dire la vérité. Il dit, c'est la même chose, mon capitaine, je vous ai dit toute la vérité. Ils m'ont mis encore une autre fois les pinces. Ils ont donné une décharge. J'ai crié. Alors le sang a commencé à couler. Franchement, le capitaine Martin, il a vu, quand il a vu du sang couler, il a dit arrêtez. Ils ont arrêté. Ils m'ont sorti, c'est ce jour-là qu'ils m'ont mis avec mes camarades en bas. C'est là que j'ai rencontré pas mal de personnes, comme le frère Khalifa, Aïssi, Boubaker, Zouaou Mouhtar.
Qui avaient tous été torturés par Le Pen aussi?
Oui, oui. Zouaou Mouhtar, la nuit, il a passé, enfin, on dormit l'un à côté de l'autre. Il mettait sa tête toujours contre ma poitrine. Il toussait la nuit. Le matin, quand je me levais, je me réveillais, il y avait ma poitrine qui était pleine de sang. En toussant, il crachait du sang.
Des suites des interrogatoires.
Des suites des interrogatoires. On lui a prononcé, comment dirais-je, défoncé la poitrine. Je ne sais pas.
Maintenant, le lieutenant Le Pen nie avoir été un tortionnaire et poursuit les gens qui le traitent de tortionnaire dans des articles en France. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, pour ça, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup d'Algériens qui pourront témoigner et dire que Le Pen a vraiment torturé des Algériens pendant la guerre de libération nationale.
Enfin, j'avais 12-13 ans à l'époque. C'était la nuit. J'ai vu Le Pen, enfin pour la première fois, la nuit du 1er au 2 mars.
Et vous le reconnaissez là-dessus?
Oui, formellement, il est là.
Montrez mieux à la caméra, peut-être.
Témoignage de Mohamed Malaï.
Oui.
Bon, on a pris mon père. On l'a fait descendre à la cour, c'est-à-dire qu'on l'a dégringolé. Il a donné un coup de pied, il s'est retrouvé à la cour. Il a dégringolé dans l'escalier, il s'est retrouvé dans la cour. Bon. À partir de là, ils sont tombés sur lui. Nous avons suivi la scène, ma mère et moi. Enfin, si vous voulez, cette scène de torture a été faite en deux phases. La première, elle s'est déroulée dans la cour de la maison. Bon, Le Pen a pris les cordes, il a commencé à couper, on l'a attaché. On l'a attaché avec des cordes entre deux colonnes, enfin deux piliers. À un moment donné, on lui a détaché, il s'est détaché d'une main, on l'a détaché l'autre main, ils l'ont mis à terre et ils ont pris un bidon d'eau qui se trouvait là, enfin un bidon d'eau usée. Ils ont balancé un peu de détergent, enfin de l'homo, enfin le reste d'une cafetière, toute la saloperie qui se trouvait. Et ils ont pris un chiffon, et avec la cafetière, bon, ils ont mouillé le chiffon, ils ont trempé le chiffon dans le bidon. Bon, il y avait deux paras qui lui tenaient les mains de chaque côté. Et pendant que Le Pen, lui, prenait la cafetière, remplissait ce qu'il y avait dans le bidon, dans le seau, et il versait dans la bouche. Bon, mon père, il vomissait tout ce qu'on lui disait. Et à ce moment-là, il avait pris le chiffon. Il a pris le chiffon. Il a noué ce chiffon, il lui a fait une espèce de bouchon. Bon, on entendait, si vous voulez, ces gémissements, ces cris de partout. Bon, ça a duré peut-être, je ne peux pas vous dire, peut-être une heure, trois quarts d'heure. On arrêtait quelquefois les coups pour lui poser des questions. Lui, enfin, absolument rien, il a tout nié. Et Le Pen, je l'ai vu, je vous dis, je l'ai vu à deux reprises. Appuyé avec son pied de tout son poids sur le ventre de mon père. Ça s'est passé à la maison. La deuxième phase de la torture qui s'est déroulée au magasin,
ça a été fait à l'électricité, bien sûr, et il est mort à la suite de ça. C'est mon oncle qui nous l'a confirmé.
Il y avait un système.
Et on l'a rhabillé parce qu'un para a crié à Le Pen. Le Pen, lui, qui, si vous voulez, suivait l'opération de très près, il a dit, mon lieutenant, il a crevé. Ils ont relevé le corps. Ils ont relevé le corps de mon père. Ils l'ont bien mis contre le mur. Et il y avait aussi mon oncle qui était à côté. C'est-à-dire que, logiquement, il devait recevoir les deux, mon oncle et mon père, la rafale de mitraillette. Et puis, quelqu'un avait posé la question à Le Pen. Il a dit, bon, mon lieutenant, est-ce que c'est le jeune ou le vieux? Il a dit, non, c'est le vieux. Et on a retiré mon oncle. On l'a retiré. Et mon père, qui était, si vous voulez, pratiquement, il était mort. Il était mort, a reçu sa rafale de mitraillette en pleine poitrine.
Oui. Ils ont donc tiré sur un cadavre.
Sur un cadavre.
Oui. J'avoue que je ne comprends pas très bien pourquoi faire tirer sur un cadavre.
C'était simple. C'était, si vous voulez, Le Pen, comme tous les autres sections de parachutistes qui avaient reçu à l'époque, si vous voulez, le plein pouvoir. Si vous voulez, devait justifier quand même qu'il n'était pas là pour pratiquer la torture. Il y avait certaines commissions des droits de l'homme, enfin de la sauvegarde, de la Croix-Rouge internationale, et les gens, si vous voulez, qui passaient par la torture, ceux qui ne tenaient pas, c'est-à-dire ceux qui mouraient à la suite de la torture, on a été obligés, si vous voulez, à l'époque, les paras étaient obligés de leur balancer en quelque sorte une rafale de mitraillette pour justifier un peu, pour maquiller la torture.
L'armée faisait des rafles dans les appartements la nuit, raflait toute une famille, on ne savait plus ce qu'il devenait. Il dit, lorsque vous arrêterez quelqu'un, vous avez raison, faites ce que vous voulez, vous êtes libre, vous avez les pouvoirs de police. Bien, sauf celui-là, vous me donnerez tous les matins le nom des gens que vous avez arrêtés. Vous les assignerez à résidence chez vous, dans le quartier militaire où ils étaient. Et vous me les rendrez à la sortie. Ils ne les ont pas tous rendus. On a signé 24 000 sous mon nom, sans aucun pouvoir, parce que la délégation de l'autorité militaire était complète, sauf l'assignation à résidence, mais je n'avais pas moi le droit d'assigner à résidence. C'est le préfet qui l'avait sorti. Je ne vais pas demander son avis, j'ai assigné à résidence moi-même. 24 000. Il en manque 4 000. On ne m'a pas rendu 4 000. Lorsqu'au mois de septembre 1956-57, j'ai fait le compte, il m'en manque trop, ça. Où sont-ils? Dans les camps, à Podcazel, même pas. Je suis allé à Podcazel pour voir, il n'y était pas. Ils ont disparu. Les ouèdes, la mer, les renvoyés. Renvoyés les crevettes bijards, comme ça qu'on appelait les hommes. On mettait les pieds dans une bassine de ciment. Quand c'était pris, on les larguait en hélicoptère dans la mer. On ne peut pas admettre ça, on ne peut pas la guerre comme ça, c'est pas possible.
C'est le jour où ils sont venus tuer mon père. Nous avons retrouvé, enfin j'ai retrouvé ce poignard de commando. Vous allez voir, il est vieux, il est très ancien. Et vous allez remarquer qu'il y a des initiales, enfin J.M. Le Pen, premier rep. Voilà. Dans ce poignard, il y avait une croix gammée incrustée à la crosse. Cette croix gammée est partie avec le temps, enfin c'est un poignard.
Mais quand vous l'avez récupéré, il y avait encore la croix gammée.
Ah oui, d'ailleurs cette croix gammée, elle a disparu, ça fait pas très longtemps, parce que, je vous dis, on ne pensait jamais qu'un beau jour, Le Pen se fera parler de lui, bien sûr.
Quel est le ministère qui vous plairait?
Écoutez, si on est d'accord sur la politique, je ne sais pas, je pense que ce qu'il y a de plus important et peut-être de plus sévère dans un gouvernement futur, et d'une nécessité qui n'apparaît pas toujours évidemment au grand public, c'est peut-être la défense. C'est là où...
Ouais, on ne va pas lui donner la parole quand même, c'est la fin de cet extrait de film. Les témoignages que vous avez pu entendre ont été recueillis en 1988. Ils ont été recueillis par René Vautier, qui est un cinéaste breton, qui a réalisé de nombreux films anticolonialistes dès les années 50. Son premier film, Afrique 50, témoignait des conditions esclavagistes, il n'y a pas d'autre mot, du travail des personnes, du travail forcé des personnes en Afrique subsaharienne, notamment au Sénégal, au Mali, mais dans d'autres régions d'Afrique subsaharienne colonisées par la France à l'époque, et donc avant les indépendances. Et donc il a également réalisé de nombreux films sur l'Algérie. Il a filmé la guerre d'Algérie aux côtés du FLN, et il a également en 88 réalisé ce film dont vous venez d'entendre des extraits sonores, donc une bonne demi-heure d'extraits. Le film s'appelle « À propos de l'autre détail ». C'est un documentaire de 51 minutes de 1988. Parce que René Vautier avait été jugé pour avoir dit que Le Pen était un présidentiable aux mains sanglantes. Un film d'histoire et d'actualité à l'époque qui a été réalisé à partir de témoignages d'Algériens, mais aussi de Français, à propos de la torture en Algérie et du passé militaire de Jean-Marie Le Pen pendant la guerre d'Algérie. On l'a entendu, certaines personnes ont témoigné dans ce film avoir vu des gens mourir par les mains de Jean-Marie Le Pen. Quatre personnes ont témoigné d'avoir été torturées ou d'avoir vu leur père torturé devant leurs yeux par Jean-Marie Le Pen, sous les ordres de Jean-Marie Le Pen et par lui. Et on ne respectera jamais ce mec, ni tous les autres tortionnaires, parce qu'on parle de lui, parce que il a eu cette carrière politique gerbante, mais qui a existé. Ça a été un homme public par la suite, et donc du coup on parle de lui dans ce film, mais combien de tortionnaires, combien d'assassins au nom de la colonisation, au nom de la supériorité blanche, au nom de la domination blanche qui perdure encore aujourd'hui. Et ce film en tout cas il retrace ces tortures très concrètes et très ancrées dans les souvenirs. Là vous aviez pas les images, mais une personne montrait ses cicatrices autour de sa gorge. Une autre personne était quasiment aveugle après avoir été torturée avec les pouces enfoncés dans les yeux. Et d'autres personnes, vous avez entendu les témoignages diffusés. Donc c'est terrible, c'est une réalité. C'est le passé colonial français, c'est le passé colonial occidental. Ça a existé en Algérie, ça a existé dans tous les pays colonisés ou presque, ou probablement tous d'ailleurs. C'était Perche 3000. On va continuer un petit peu avec cette bande sonore que vous entendez derrière moi, que je vais remonter un peu, qui a pas grand chose à voir avec les témoignages qu'on vient d'entendre. C'est ça s'appelle Île Résonante. C'est Eliane Radigue, une femme qui faisait de la musique électronique. Alors là j'ai beaucoup moins de références, je suis désolé, je vais pas pouvoir vous en donner beaucoup. En tout cas, qui faisait des pièces de musique électronique uniquement avec des machines dans les années 60, je crois. Et on va s'écouter un petit peu ça et on va se quitter là-dessus. Bonne soirée à toutes et à tous. Vous retrouverez cette émission en podcast sur le site de Radio Galère, radiogalère.org. Et je mettrai les références avec les noms et les prénoms des personnes qui ont témoigné pour leur mémoire, pour la mémoire de toutes les personnes colonisées, pour la mémoire de toutes les personnes qui ont subi la violence de la France colonialiste. Aujourd'hui, hier, et qu'il est encore très probablement dans les années qui viennent. Force à toutes et tous, pétez le champagne si vous avez l'occasion à la mémoire, pour fêter, célébrer la mort de Le Pen. Il ne doit plus en rester beaucoup des tortionnaires de cette époque-là, mais voilà. Allez, ciao, j'ai pas trop les mots, donc je vous souhaite juste une bonne soirée comme ça. On se quitte avec Île Résonante d'Eliane Radigue. Ciao, ciao. Et on se revoit dans 15 jours pour un autre Perche 3000 et on sait pas ce que ça va donner. Ciao.
Père Chevalier.